Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les lipodystrophies et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités qui sont touchés par cette maladie et fondatrices de deux associations de soutien aux patients, la FLIP, l'Association française des lipodystrophies, et l'association Vaincre de Nyngan. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'accueillir.
Mesdames, vous êtes toutes les deux touchées personnellement par une lipodystrophie. Comment sont survenus les premiers symptômes de la maladie, Madame C?
Alors, moi, je suis donc touchée par le syndrome de Nyngan. Alors, les premières manifestations, c'est j'ai commencé un peu à réaliser quand j'avais 10 ans, j'avais des jambes beaucoup plus maigres que la moyenne. Voilà, c'est à peu près la seule chose qui me distinguait vraiment. Et voilà, ce qui me rendait quand même un peu malheureuse à l'époque. Et en termes de manifestations métaboliques, j'étais au début de la trentaine, j'ai commencé à avoir des taux de triglycérides trop élevés pour mon âge. Et puis, on a fait des investigations et il s'est avéré que c'était en raison d'une résistance à l'insuline.
Et pour vous, Madame Ouarou, comment sont survenus vos premiers symptômes?
Alors, moi, je suis atteinte du syndrome de Nyngan, qui est une lipodystrophie partielle de type familial. Mon premier symptôme remonte à 2002. J'avais 16 ans à l'époque et c'était l'arrêt brutal de mes règles et qui a conduit à un syndrome des ovaires polykystiques.
Et ensuite, au bout de combien de temps et comment avez-vous été diagnostiquée, Madame C?
Alors, également, je dois préciser que dans la trentaine, mon apparence physique aussi évoluait. Elle évoluait dans le sens où j'avais des bras et des jambes de plus en plus maigres, un visage et un cou de plus en plus rond, une musculature aussi qui était de plus en plus importante. Donc, ça m'a fait réaliser qu'il ne s'agissait pas juste d'un type physique, comme certaines personnes sont grands, petits, gros, maigres, mais qu'il y avait quelque chose d'évolutif. Donc, c'était très anxiogène de ne pas savoir quelle était la raison de cet aspect étrange, de cette évolution, mais je ne faisais pas de lien avec mes problèmes métaboliques. Donc, j'ai cherché à partir de 35 ans, j'ai visité un certain nombre de spécialités médicales pour essayer de qu'on me trouve une cause à ce phénomène, mais aucun médecin ne connaissait. Et j'ai fini par consulter une généticienne à l'hôpital Salpêtrière à Paris qui m'a dit « vous devez avoir probablement un problème génétique, mais je ne peux pas vous dire lequel ». Et en 2000, elle m'a recontactée en m'indiquant qu'elle avait eu connaissance d'une maladie pour laquelle je pourrais correspondre. Elle a fait le test et le test s'est avéré positif. Donc au final, j'ai eu plusieurs années d'errance diagnostique qui sont assez angoissantes pour un patient.
Et pour vous, Madame Ouarou, combien de temps pour votre diagnostic et comment est-ce qu'il a été posé?
Alors, on va dire que ça a pris 12 ans pour être diagnostiqué. Mon état de santé a commencé à se dégrader en 2008, lorsque mon mari et moi, ne pouvant pas avoir d'enfants à cause d'un syndrome des ovaires polykystiques, nous avons intégré un parcours de procréation médicalement assistée. C'est durant ce parcours que on m'a diagnostiqué tout d'abord un pré-diabète qui a vite évolué en un diabète ingérable. Pour les médecins de l'époque, c'était uniquement de ma faute parce qu'ils faisaient tout ce qu'il fallait. J'avais des traitements, mais mon diabète ne baissait pas. Donc, c'était uniquement dû à une mauvaise hygiène de vie et à une très mauvaise condition physique. On s'est vu refuser tout traitement puisque quand vous êtes diabétique et que c'est pas contrôlé votre diabète, vous ne pouvez pas avoir de traitement pour la fertilité. Donc, tout a commencé en 2008. Donc, pendant 12 ans, on a été suivi par ce centre de PMA. J'ai fait tous les examens qui étaient possibles et imaginables, mais à aucun moment on a pensé que ça pouvait être d'ordre génétique. En octobre 2017, j'ai eu une première pancréatite aiguë qui a été suivie d'une deuxième en février 2018. Et c'est à partir de cette deuxième pancréatite qu'on a commencé à penser à quelque chose de génétique. En fait, il faut savoir qu'à La Réunion, le syndrome de Dullingan est très lié au patronyme Grondin. Et au détour d'un couloir, ce médecin qui m'a suivi pendant 12 ans en PMA me dit « Vous savez, Madame Waraud, si vous vous appelez Grondin, nous aurions pu trouver, mettre un nom sur ce qui vous arrive. » Et c'est là que je lui dis « Mais vous savez, comme le dit mon dossier médical, je suis une demoiselle Grondin. » Et c'est à partir de là qu'on m'a proposé de faire le test génétique pour le syndrome de Dullingan, qui s'est avéré être positif.
Et qu'est-ce qui a changé avec la pose de ce diagnostic, Madame C?
Alors, ça a beaucoup changé le rapport à la maladie, parce que d'une part, je pensais être seule au monde avec cette apparence physique, puisque dans ma famille, j'étais la seule touchée, hormis mon père qui me l'avait transmis, mais il était moins touché que moi, et sur un homme, les anomalies, si vous voulez, se remarquent beaucoup moins. D'une part, ça c'était important. D'autre part, de comprendre qu'il y avait une cause à mon problème. Et puis, un peu naïvement, j'ai pensé que s'il y avait une cause, il y aurait une solution. Voilà. En revanche, je ne connaissais pas toutes les atteintes que cette maladie pouvait provoquer, outre celles que j'avais déjà métaboliques, mais qui n'étaient pas très importantes à l'époque.
Et de votre côté, Madame Waraud, après ce diagnostic, comment s'est passée votre prise en charge ?
Alors, ça a été compliqué parce que il faut savoir qu'un test génétique, il faut 3 mois pour avoir un premier résultat. Ensuite, il faut un second résultat de confirmation qui prend lui aussi 3 mois. Donc, il faut environ 6 mois pour avoir le résultat final. Hein. Et la pandémie de Covid éclate. Le monde est arrêté. Et moi, je me retrouve avec uniquement mon document disant que je suis positif au syndrome de Dullingan. On m'annonce que je suis sous le coup d'une loi de bioéthique qui s'appelle l'IGP, l'information génétique à la parentèle, que je suis le premier cas diagnostiqué dans ma famille et que je dois faire cette information génétique à la parentèle. Sauf que la pandémie est là et je n'ai... aucune aide à ce moment-là, et je le saurai plus tard que normalement j'aurais dû avoir un conseil génétique et une aide pour faire cette IGP, sauf que je l'ai pas eu. Donc du coup, les premiers mois après le diagnostic a été très compliqué parce que j'ai dû faire cette IGP toute seule. Et une fois que la tension hospitalière commence à se détendre un petit peu à La Réunion, là, on m'oriente vers le service du professeur spécialiste du syndrome de Dullingan. Et c'est à partir de là que commence ma véritable prise en charge. J'ai toujours un diabète ingérable. J'ai 3 pathologies du foie, une céatose, une fibrose et une cirrhose hépatite. J'ai des taux de triglycérides énormes. Je fais des pancréatites aiguës à répétition. Je commence à avoir des petites alertes cardiaques et des petites alertes rénales. J'ai toujours une stérilité due à mon syndrome des ovaires polykystiques qui me trouve une opération de chirurgie bariatrique qui a été réalisée dans le cadre d'un syndrome de Dullingan également aux États-Unis en 2008. On a très très peu d'informations, on sait juste que la jeune fille se porte à merveille. On ne sait pas combien de kilos elle a perdu, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais on sait juste qu'elle est en rémission de toutes les complications métaboliques qu'elle a eues, exactement les mêmes complications que j'ai à ce moment-là. Et donc, du coup, on décide quand même de tenter l'expérience. Je serai opérée en septembre 2021. Et donc, ça fait 1 an, 1 mois et quelques jours. Une semaine après mon opération, enfin la première semaine après l'opération, on diminue mes traitements de moitié. Et à la fin de la première semaine, on me retire tous les traitements et je suis en rémission de chacune de mes complications métaboliques.
Alors, mesdames, vous avez chacune fondé une association qui est dédiée aux patients atteints de l'hypodystrophie. La FLIP, l'Association française de l'hypodystrophie, et l'association Vaincre Dullingan. On va débuter par la FLIP. Comment cette association a-t-elle vu le jour ?
Alors, l'association a été créée en 2017 suite à une sollicitation de l'association espagnole AELIP, l'association des lipodystrophies espagnoles, et qui m'ont sollicité pour créer une antenne française de l'association espagnole. Bon, il s'est avéré que c'était plus pratique de créer une association indépendante. Voilà, c'est donc l'association espagnole qui est à l'origine de, finalement, de la création de l'association française.
Et quels sont les objectifs de l'association française des lipodystrophies ?
Les objectifs bon, sont classiques hein, pour une association de patients. La première, c'est d'être un lieu d'échange et d'écoute pour les personnes qui sont atteintes. La deuxième, c'est de faire connaître auprès du corps médical et du grand public les maladies d'hypodystrophie. Et la troisième, c'est de travailler en collaboration avec les médecins spécialisés sur ces pathologies. Donc, ce sont les centres de référence, donc il y a un centre de référence à Paris et les centres de compétences en région. Donc, nous travaillons en collaboration avec ces réseaux de centres qui s'appellent PRISIS, qui traitent en fait des pathologies de l'insulinorésistance.
De votre côté, Madame Ouarot, vous avez fondé l'association Vaincre Dunningan. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre démarche ?
Créer Vaincre Dunningan est né d'une promesse que j'ai faite au professeur qui me suit, qui m'avait demandé à l'époque si je voulais bien envisager de créer quelque chose pour aider les personnes atteintes du syndrome de Dunningan. Et donc du coup, moi je suis riche d'une expérience au sein d'une association de patients sur une autre maladie que j'ai, qui est la maladie de Verneuil. Et connaissant mon travail au sein de l'association La FRH sur la maladie de Verneuil, le professeur qui me suit m'a demandé si je pouvais envisager quelque chose pour les patients atteints du syndrome de Dunningan à La Réunion, comme en France. Hein. Je lui ai demandé de me laisser me remettre sur pied. Et il me tenait à cœur de tenir ma promesse parce que cette femme m'a sauvé la vie. Et donc, du coup, Vaincre Dunningan est né d'une promesse.
Et quelles sont les missions de l'association Vaincre Dunningan ?
Bah, écoutez, c'est très simple. Hein. J'ai ce besoin de donner aux malades tout ce que j'ai eu la chance de recevoir. Et j'espère aussi pouvoir combler ce qui m'a manqué durant mon parcours personnel. Comme je vous disais, je me suis retrouvée toute seule, moi, pour faire l'IGP. Ça n'a pas été très simple. Devoir annoncer à sa famille un tel diagnostic. Quand ça vient de la famille, c'est plus difficile. C'est vrai que j'aurais aimé avoir ce conseil génétique à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, Vaincre Dunningan est là pour aider ces personnes, pour aller porter l'information auprès de la famille pour l'IGP. On est là aussi pour faire connaître et reconnaître cette maladie, parce que c'est vrai que 12 ans, dans mon cas, ça a été très long, ce délai de diagnostic. Hein. Et c'est vrai qu'une fois que le diagnostic il est posé, on a tout de suite une prise en charge qui est adaptée. Et une fois qu'on a cette prise en charge, moins les complications métaboliques sont graves. Donc, il est très important de faire connaître et reconnaître cette maladie, surtout qu'elle est ultra rare. Donc, après, les médecins, ils peuvent malheureusement pas connaître toutes les maladies tellement elles sont nombreuses. C'est à nous, association, de relayer cette information et aussi de porter la voix et le ressenti, le vécu des malades.
Eh bien, merci mille fois, mesdames, pour vos témoignages qui nous ont permis de mieux connaître cette maladie rare que sont les lipodystrophies. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram, Rare à l'écoute, ou sur notre site internet, www.rarealécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pouvez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette maladie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite.